Bonjour Salvatore Adamo.
Bonjour Elodie.
Quand les roses fleurissaient, sortaient les filles.
Vous allez passer la semaine avec nous sur France Info dans Le Monde d'Elodie. 5 jours, 5 titres qui sont dans nos playlists comme des Madeleines de Proust. C'est vrai qu'en écoutant vos chansons, on replonge ou on plonge tout simplement en enfance pour certains, dans la vie d'ado ou d'adulte pour d'autres. Certaines personnes que nous aimions et qui nous ont quittés depuis réapparaissent par enchantement au gré des souvenirs auxquels vos paroles et vos notes nous renvoient inlassablement. Depuis 60 ans, vous nous accompagnez autant que nous vous accompagnons et cette fidélité sans faille saute aux yeux. 100 millions d'albums vendus dans le monde entier. Beaucoup auraient pris la grosse tête, mais pas vous, Salvatore. Votre humilité ne vous a jamais quitté, tout comme votre incapacité d'ailleurs à bâcler et oublier d'où vous venez. On va d'ailleurs revenir ensemble sur cette vie d'artiste et ce parcours que peu ont vécu et que très peu, voire plus personne ne pourra vivre encore aujourd'hui. Je précise que vous êtes actuellement en tournée avec un Olympia le 22 mars prochain à Paris. Vous serez à Biarritz le 21 avril, puis le 21 juin au Havre et le 7 octobre à Clermont-Ferrand. Dans votre dernier album, Salvatore, des nefles et des groseilles, vous vous adressez au petit garçon que vous étiez, avec un tête-à-tête musical dans Qu'avais-je fait de mon enfance. Vous avouez que petit, vous aviez souhaité passer du gris à la couleur. Vous êtes né en 1943, donc peu avant la fin de la guerre. Vous gardez quoi de cette enfance ?
Beaucoup de tendresse, d'affection que mes parents m'ont choyé. Bien sûr, je ne me suis pas rendu compte lors de l'émigration de la misère, employons le mot juste, mais l'amour de mes parents m'a offert une enfance radieuse. C'est plus tard que j'ai compris la difficulté de leur vie. Ils étaient jeunes et déracinés, et j'en profite pour dire une fois de plus que quitter son pays n'est jamais un plaisir, c'est toujours une blessure. Je le dis dans une chanson qui s'appelle Migrant, mais comme j'ai eu des réactions un peu étranges par rapport à cette chanson, Je le redis.
Vos parents, effectivement, ont fui en 1947. Ils étaient siciliens, ils ont fui la misère. Ils ont décidé de s'installer à Jemappes, donc en Belgique. C'est là que votre père a trouvé un emploi de mineur. Le but du jeu, c'était de nourrir la famille. Donc, il a fait ce qu'il pouvait faire à ce moment-là. Mais il y a toujours eu, finalement, la musique en fond sonore.
C'est vrai que malgré la misère, malgré le baraquement dans lequel nous vivions, le lien avec l'Italie, et c'était valable pour mon père et ses confrères, c'était la musique. On avait un poste et à partir de 20h, on pouvait capter la RAI. Et c'est comme ça qu'on était au courant des nouvelles d'abord en Italie, et puis de la musique. On suivait le festival de San Remo, le festival de Naples. Et toutes ces chansons-là, je les ai encore en entier dans ma mémoire.
Vous êtes italo-belge, hein ? C'est très
oui,
important.
Je suis belge depuis 3 ans.
Les deux nationalités sont très importantes pour vous.
Oui, j'ai gardé la nationalité italienne par respect et fidélité à mes parents. Et puis, ça faisait des années que j'essayais de devenir belge. Mais le gouvernement italien n'acceptait pas la double appartenance. Donc, j'ai dû attendre. Et depuis 3 ans, je suis italo-belge.
Ce qu'on comprend d'ailleurs, Salvatore, c'est à quel point ce monde ouvrier a été très important et vous a construit. Vous parliez des migrants. C'est vrai que les migrants sont au cœur de cet album des Nefles et des Groseilles, avec ce besoin justement de faire un travail de mémoire, de ne pas oublier d'où on vient et surtout qu'il y a encore des gens qui meurent aujourd'hui en mer en oui. Essayant de proposer et de vivre une autre vie, de survivre tout simplement. Ce monde ouvrier, il a dicté justement, il continue à dicter votre écriture, vos mots, vos paroles.
Pour être honnête, j'ai pu, grâce à la chanson, accéder à un milieu un peu plus aisé, mais les souvenirs sont là. Et puis le contact avec le public après les concerts, les gens viennent me parler et ils ne sont pas tous de la haute sphère. Je suis encore bien en contact et je retourne à Jemappes où j'ai vécu assez régulièrement. J'ai des cousines, j'ai des amis et je vois que là, la vie n'a pas vraiment changé. Il y a eu quelques problèmes sociaux, il y a des usines qui ont fermé. Par exemple, tous les commerces où nous allions sont à remettre. Maintenant, ça va mieux depuis quelques années, mais il y a eu de gros problèmes dans la région. Ouais.
Jemappes ne vous a jamais quitté. C'est vrai que cet endroit vous a permis aussi de grandir. J'ai l'impression que vous avez eu très vite conscience de l'importance de regarder les gens dans les yeux et de respecter chacun de leurs faits et gestes et ce qu'ils étaient, peu importe la condition dans laquelle ils évoluaient.
Je l'ai appris par la force des choses dans cette cité dont je vous parlais, de baraquement, où nous étions pratiquement tous italiens, sauf quelques polonais. Et je me souviens d'un monsieur qui s'appelait Barak, dont ma maman faisait le ménage. Donc, c'était un des seuls qui parlait assez bien le français dans la cité. Et c'est lui qui m'aidait parfois à faire mes devoirs. Et un jour, on l'a vu entre deux gendarmes menottés. Toute la cité était devant sa porte. Tout ce qu'il avait fait, c'était qu'il n'avait pas obtenu son permis de séjour. Et c'était un des types les plus braves que j'avais rencontré. Mais c'était comme ça à l'époque. Et puis, il y avait aussi cette angoisse, je vous l'ai sans doute déjà raconté, mais la cité était contiguë de la mine, donc le puits 28 dans lequel mon père travaillait. Et il y avait un tocsin qui résonnait dès que le malheur était tombé sur quelqu'un. Et chaque fois, on était encore une fois devant sa porte à se demander sur qui, cette fois, le malheur avait frappé. Ouais. Ça vous met sur des rails qu'on ne peut pas quitter. Même si vous changez d'univers, le souvenir est là et le respect reste, bien sûr.
Donc, ne pas oublier. La musique, elle vous a toujours accompagné. Et je me suis juste posé la question de savoir à quel moment ça bascule, alors. À quel âge ça bascule ?
À 14 ans, lorsque ma mère m'a surpris devant un miroir avec un balai en guise de guitare en train de me déhancher à la Elvis Presley. Et donc, elle ne m'a rien dit, elle a écrit à son papa en Sicile, et un mois plus tard, un oncle me ramenait ma première guitare. Donc ça a commencé comme ça, à tel point qu'il y a 3 ans, j'étais en tournée au Chili, et le jour de relâche, il y avait un spectacle sur Elvis Presley, au Caupolicán, c'est un peu le zénith de Santiago. Et c'était un spectacle, on avait récupéré la voix d'Elvis, l'image d'Elvis, et on avait ajouté un orchestre symphonique, c'était grandiose. Et c'était présenté par Priscilla Presley, la veuve. Et j'ai eu le privilège de la rencontrer après le spectacle. Et je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter, le fameux trio qui est à la base de mon parcours. Ma mère, mon grand-père et Elvis Presley. Ça l'a bien fait rire, voilà.
En tout cas, ça a ancré justement cette envie que vous avez eue en vous de faire de la musique. Il y a eu un concours pour une radio qui vous a un peu conforté dans l'idée que vous étiez fait pour ça, puisque vous avez remporté ce concours-là. Et ensuite, il va y avoir effectivement ce titre « Pour toi, mamie », on est en 1963. Pour le coup, a priori, vous méritez justement que ça fonctionne. Et il y a des gens qui vont se mettre entre vous et la possibilité de rencontrer votre public. Ils vont être extrêmement difficiles avec vous, extrêmement durs avec vous, avec des mots qui vont, entre guillemets, saigner les oreilles de votre père, le plonger dans une espèce de colère indescriptible, et au point d'ailleurs de lui donner envie de se battre. J'aimerais que vous me racontiez ce moment où on vous dit que votre voix est désagréable.
La règle à l'époque, avant de passer sur une radio nationale, fallait passer devant un jury. J'avais fait un premier disque qui n'avait pas vraiment démarré, un second. Et puis, je m'étais résolu à retourner aux études sérieusement. Parce que depuis que je chantais, j'avais commencé à les négliger, alors que j'étais très bon élève avant. Et donc, on m'a reçu à ma première interview parce que je passais dans les jukebox à l'initiative de mon père donc, et du disquaire de GEMAP. Ils avaient eu cette idée de placer mon disque dans les jukebox. Et donc, des auditeurs de la Radio Nationale m'avaient réclamé. Et donc, je m'amène pour ma première interview. Et c'était une présentatrice et un présentateur qui me disent « Bonjour, on vous accueille parce qu'on est obligé, mais on n'aime pas ce que vous faites. » Ça m'a mis à l'aise directement. Et j'ai eu l'inconscience ou l'audace ou la folie, je leur ai dit « Moi non plus. » Ils n'en revenaient pas. « Comment vous non plus ?» Et je dis « Oui, j'ai d'autres chansons que j'aurais préféré enregistrer d'abord avec un peu plus de consistance. » Et donc, elle me dit « Mais vous pouvez nous en chanter, l'une ?» J'ai dit « Écoutez, j'ai ma guitare dans la voiture, si vous me le permettez, je vais la chercher. » Et en effet, je suis revenu, j'en ai chanté 2. Et ils ont été tellement surpris que j'en ai enregistré 12 qui sont passés 2 par jour la semaine d'après et qui ont constitué mon premier album qui s'est appelé « Chansons non commerciales » et qui est devenu numéro 1 en hit parade.
Elle représente quoi cette chanson alors pour vous, pour toi mamie ?
C'est mon univers de vie, c'est ma façon de respirer, c'est quelque chose qui me vient de je ne sais où, la nuit aussi. Je me réveille comme si quelqu'un me soufflait une mélodie ou un début de texte à l'oreille. Je vous jure que des fois, je n'en reviens pas, je marmonne quelques notes, mon épouse se réveille, j'ai mon petit enregistreur, et puis j'essaye de me rendormir. Et quand je réécoute, des fois je me dis « tiens, ça valait la peine », mais il arrive aussi que je me dise Et c'est pour ça que tu t'es réveillé. Ouais.
Merci Salvatore Adamo de passer la semaine avec nous sur France Info dans le monde d'Élodie. Votre album Des Nèfles et des Groseilles est disponible. Je le rappelle, vous êtes en concert dans toute la France avec une date à l'Olympia le 22 mars prochain. Vous serez à la Gare du Midi à Biarritz le 21 avril, le 21 juin au Havre et le 7 octobre à Clermont-Ferrand. Je vous donne rendez-vous demain. On parlera de deux titres, Tombe la neige et Permettez-moi,
d'accord.
Monsieur.
Et aussi le Québec en mai et quelques concerts en Belgique.
À demain.
À demain Élodie, merci.
Je sais, tout est fini. J'ai perdu ta confiance. Néanmoins, je te prie de m'accorder ma chance. Si devant mon remords tu restes indifférente, on ne peut te donner tort. Mais sois donc indulgente au nom des joies avons vécu, au nom de l'amour que nous croyons perdu. Sans toi, ma vie, le temps est si lourd, les heures et les jours sombres sans espoir. Sans toi, ma vie. Et leur air ingénu nous torture et nous hante. Aussi je viens vers toi pour te confier ma voile. Toi tu me guideras, tu es ma bonne étoile. Sans toi ma mie, les heures et les jours sombres sans espoir. Sans toi, ma mie,